Alors, Éric Briand, il est l'heure, 4 heures. Ah oui, on a déjà, j'ai même trop parlé. Pour l'art d'inventer en mathématiques, selon Slogem Mandelbrot, en 1946. Alors, donc, il avait cette chaire de mathématiques qu'il avait retrouvée après avoir séjourné aux États-Unis à Rice University pendant la guerre. C'est un cas très intéressant, Mandelbrot, puisque quand il est revenu en 1944 des États-Unis, il n'avait plus de chaire, puisque le statut des Juifs avait fait qu'il avait été révoqué en 1940 et que sa chaire avait été attribuée à un autre professeur entre 1940 et 1944. Heureusement, il en a retrouvé une. Parce qu'il y en avait une qui avait été mise en réserve pour un prisonnier.
Donc ça, c'est après. Mais c'est pas grave, on va y venir.
Donc, on a pu lui trouver quand même un moyen pour revenir au Collège de France. Alors, mais 46, c'est le rat qui était le prisonnier.
Oui, mais c'est après, ça. C'est ce dont je vais parler.
C'est ça, c'est le rat. Allez, je vous laisse la parole.
Merci. Merci pour la présentation générale et merci Antoine Compagnon pour le fait de porter ce projet avec le partenariat d'autres professeurs du collège que nous avons vu intervenir au fil des réunions. Et merci à Céline Surprenant pour tout ce travail d'organisation. Alors, le mathématicien Scholem Mandelbrot est né à Varsovie. Il y a presque 120 ans et quelques jours, il est né le 20 janvier 1999. Il arrive en France en 1920 et il a suivi les cours de Henri Lebègue et Jacques Adamard, tous deux professeurs de mathématiques au Collège de France. Je vais dissiper un malentendu éventuel. Son nom suggère aujourd'hui celui de son neveu, Benoît Mandelbrot, qui est décédé en 2010, le concepteur des fractales, ces objets mathématiques qui ont comme caractéristique d'être invariants selon les changements d'échelle. Benoît Mandelbrot m'a confié vers 2000, je cite, « C'est mon oncle qui m'a orienté vers cette classe de fonctions en ajoutant « il y a du travail de ce côté ». Donc vous le voyez, dans ce conseil, il y avait à la fois disons, une prescription qui relevait de l'analyse mathématique, de la théorie des fonctions, et d'autre part, une prescription qui relevait du calcul des probabilités. Je ne vais pas m'étendre sur les propriétés de ces courbes. Concrètement, elles sont rugueuses. Elles sont rugueuses, si vous voulez, si vous passiez les doigts sur la côte de Bretagne en étant un géant, vous vous râperiez le doigt. Alors que les autres courbes habituellement traitées sont lisses pour beaucoup dans beaucoup de cas habituels. Alors, je reviens à l'oncle, c'est-à-dire à Scholem. Il fut l'un des fondateurs du groupe Bourbaki et de 38 à 72, le titulaire, avec le moment que soulignait Antoine Compagnon, le titulaire de la chaire mécanique analytique et mécanique céleste, ici, au Collège de France. Il est décédé le 23 décembre 1983. Alors, oh, pardon, il faut que je fasse ça. Vous avez normalement quelque chose qui apparaît. Oui. Alors, ça va, c'est assez... J'ai essayé de l'écrire en second. Bon. J'indique au bas de l'image projetée les trois raisons qui me conduisent aujourd'hui à présenter la proposition qu'il fit à l'Assemblée des professeurs du Collège du 24 novembre 1946 de créer une chaire d'analyse générale et de calcul des probabilités. Comme vous voyez, ici encore, les deux domaines des mathématiques que je vous indiquais à propos des travaux de son neveu sont présents dans la proposition. Dans le titre lui-même, donc, les deux domaines sont liés. Le document dont je vais vous parler n'a jamais été suffisamment commentée jusqu'ici. J'en suis très triste parce qu'il révèle chez le mathématicien une réflexion épistémologique profonde qu'il faut signaler pour des raisons que j'espère arriver à rendre claires. Et il révèle surtout une conception de l'art d'inventer au XXe siècle telle qu'il voulait la voir enseignée. Alors, dans les années 60, on aurait dit c'est la conception bourbakiste, mais disons grosso modo que tous les élèves des lycées et des classes préparatoires des années 60-70 ont appris à faire des maths comme ça. Donc, pour ma part, j'étais très heureux de trouver en quelques pages un exposé clair sur ce savoir-faire, alors que, bon, malgré des études, y compris dans le domaine mathématique, jamais personne ne m'avait dit « ben voilà comment tu fais ». Alors l'intrication entre mathématiques et philosophie des sciences, telle qu'elle est présentée dans ce document, aurait étonné la plupart des commentateurs. Des commentateurs ultérieurs, ceux des années 70, ceux qui croyaient que Bachelard se moquait des mathématiques. C'est totalement faux. La manière dont... Alors, il vient de sortir un ouvrage sur Bachelard signé par Charles Aluny. Ceux qui continueraient à croire que Bachelard aurait méprisé les mathématiques, je les invite à se reporter à cet ouvrage qui vient de paraître aux éditions Hermann et qui s'intitule « Spectre de Bachelard ». Et les deux principaux élèves de Bachelard, à la veille de la Seconde Guerre mondiale, Jean Cavaillès, d'une part, et Albert Lotman, d'autre part, tous deux résistants, tous deux dénoncés en France, emprisonnés en France et fusillés en France. Je me permets de m'indigner. Tous deux sont décédés en 1944, respectivement en février et en août, si bien qu'après la Seconde Guerre mondiale, il n'y avait plus en philosophie de contributeurs, j'ose le dire, assez puissants en mathématiques, pour porter la réflexion épistémologique telle que l'avait amorcé Bachelard et telle que l'avait soutenu respectivement Cavaillès et Lotman. Ensuite, après la Seconde Guerre mondiale, la prédilection des épistémologues français est allée vers d'autres disciplines comme la médecine. On doit remercier sans doute Georges Canguilhem pour cela, mais c'est aussi une question de formation, si vous voulez. J'en viens aux commentaires de ce document. Si les logiques institutionnelles impriment parfois leur forme mondaine aux activités savantes, j'ose dire que cette phrase est une prise de position de méthodologie, donc elles impriment des formes mondaines, elles n'en sont pas moins le principe exclusif. Toutefois, elles offrent parfois, et c'est le cas pour ce qui nous concerne aujourd'hui, des cribles révélateurs. C'est le cas du genre d'exposé qui nous intéresse, du fait de la procédure d'élection que rappelait Antoine Compagnon il y a quelques dizaines de minutes. Chaque fois, le présentateur, un collègue du collège me dit un jour que le vocabulaire du champion était quelquefois utilisé en interne, mais ça, pour des raisons statutaires, il ne m'appartient pas de l'affirmer. Alors, ce présentateur, qu'il défende le bien fondé d'une possible chaire ou qu'il analyse le dossier d'un candidat, se trouve plongé dans une arène, c'est sans doute là l'étymologie de ce vocabulaire interne, peu commode. Le domaine à discuter, par principe, doit être singulier. Le ou les candidats doivent être exceptionnels. Le présentateur, par principe, est un éminent spécialiste, mais d'un autre domaine, que ni le candidat ni les homologues de l'Assemblée collégiale ne sont supposés avoir en partage avec lui. En 1946, nous nous retrouvons dans une situation qui exacerbe cette donnée institutionnelle, car Scholem-Mandelbrot est l'unique professeur de mathématiques du collège. Le Beg est décédé en 1941. Les autres sont décédés un peu plus tôt ou étaient en retraite. Donc, en résumé, la procédure administrative pousse au paroxysme cette situation d'un professeur légitime devant défendre un dossier devant des collègues qui n'en sont pas familiers. Et la solution que va choisir Mandelbrot va consister à donner un exposé d'épistémologie et de méthodologie des mathématiques. Donc, si vous voulez, c'est cette donnée institutionnelle et cette configuration, je dirais, conjoncturelle, qui induit la nature de cette page de manuscrit. Mais alors, quelle fut ma surprise quand j'ai lu... voilà, je vais vous lire les passages. Quand j'ai lu dans le premier ouvrage issu de la série de colloques, en fait partie celle-ci, ouvrage paru aux éditions des Belles Lettres, un article sur les chaires de mathématiques où il était dit, comme souvent, c'est ma collègue fort compétente par ailleurs, Hélène Gispert, comme souvent, écrit-elle, seul le rapport concernant celle des propositions qui a triomphé est effectivement conservé. Et puis elle revient à la charge. Quant aux pièces jointes et aux procès-verbaux, rapport aux correspondances sur les intitulés de chaires et sur les candidats conservés aux archives, elles ne témoignent la plupart du temps que d'un versant de l'histoire des chaires, celui des gagnants. Alors, est-ce que ma collègue, disons, est portée par une tendance pathétique ? Non. C'est lié à un moment de l'histoire et de la sociologie des sciences, moment inauguré par David Bloor dans les années 70, qui, dans l'agenda de ce qu'il a appelé son programme fort, requiert que les études traitent de manière symétrique les échecs et les réussites. Alors, en un sens, très bien. Mais que ce souci de symétrie, dont l'un des plus grands promoteurs a été ensuite Bruno Latour au niveau international, que ce souci de symétrie aboutisse à la forclusion de documents sous prétexte que vae victis, les perdants, n'auraient pas vu les documents conservés, eh bien ça... C'est une sorte de perversion historiographique. Donc je m'insurge, et je vous prie d'excuser ce geste, mais effectivement, je m'insurge contre cela. Donc, quelle ne fut pas ma surprise quand j'ai trouvé ce document, justement grâce à Salamandre, grâce à tout le travail préparé par ce groupe. Alors, pourquoi j'ai eu le bonheur de le trouver. Et pourquoi Hélène Gisbert l'a raté? Parce que j'ai le sentiment qu'elle, elle est partie des noms des professeurs nommés, enfin, élus, alors que moi, je suis parti d'une clé liée à une de mes spécialités, disons, de recherche, qui est l'histoire du calcul des probabilités. Donc, si vous voulez, c'est l'histoire de la recherche des clés sous les réverbères. C'est-à-dire que si on est sous le mauvais réverbère, on ne le trouve pas. Donc moi, j'étais sous un autre réverbère et voici que le document apparaît. J'en viens au texte et à sa teneur épistémologique et méthodologique. Donc je l'ai dit, Mandelbrot est seul. Et le premier volet de sa proposition, l'analyse générale, pose une approche radicalement abstraite des mathématiques. Le second, le calcul des probabilités, évoque un domaine qui, au moment où il écrit, où il parle, depuis 2 siècles et demi, fait l'objet, y compris chez les mathématiciens, de discussions très âpres. Et y compris sur la nécessité de traiter le calcul des probabilités de manière abstraite et selon quelle modalité. Alors il va choisir de donner à son exposé la forme d'une brève conférence d'histoire et de philosophie des sciences. Et il lui a donné, sans doute, parce qu'il se trouvait devant un auditoire moins familier de ces matières, une forme provocante, mettant en question ce que chacun des autres professeurs pouvait imaginer de l'état des connaissances et des savoir-faire mathématiques. Bon, l'apostrophe est « messieurs ». Ici, il faut rappeler que Jacqueline de Romilly, disparue en 2010, fut la première professeure élue au collège, et qu'en 1946, effectivement, l'Assemblée était constituée de professeurs masculins. Alors, voici le propos de Mandelbrot. La notion même de rigueur, qui pour le profane, c'est aussi des autres professeurs dans cette affaire-là, caractérise la pensée mathématique, a beaucoup évolué. Ce qui paraissait exact aux savants de 1850 commençait à paraître douteux en 1900. À quoi pense-t-il comme mathématicien? Il pense aux révisions des conceptions de la géométrie depuis ce que dans la réception des travaux de Lobachevsky en France, on a appelé la géométrie non euclidienne, mais que Lobachevsky lui-même appelait beaucoup plus rigoureusement la pangéométrie, c'est-à-dire une géométrie plus générale, qui n'adoptait pas les mêmes axiomes que les axiomes euclidiens portés depuis l'Antiquité. Et puis, Mandelbrot pense aussi aux problèmes formulés par Hilbert au Congrès mondial mathématique de 1900, où la question du fondement de l'algèbre est posée. Vous voyez, si vous me permettez ce mot lapidaire, tous les fondements des conceptions élémentaires des mathématiques se sont dérobés sous les pieds des mathématiciens au milieu du XIXe siècle. La géométrie, depuis 1860, les choses sont en débat. La théorie des nombres, depuis Cantor, et le passage de la théorie des nombres à la théorie des ensembles, il en va de même. Et donc, les problèmes de Hilbert, qui en 1900 ne sont pas résolus. C'est à cela que pense Mandelbrot. Je dois dire que ce manuscrit est nourri d'allusions. Je pense qu'il serait pertinent, dans la version écrite de mon intervention, de le mettre en annexe. Et peut-être serait-il possible de faire la même chose avec les autres rapports commentés. Et l'appareil critique, j'ai commencé déjà à le préparer en m'occupant de ce travail ici, est presque plus long que le texte lui-même. Et puis, quant au rapport entre mathématiques et physique, vous savez comme moi, on en a parlé ici dans des séances précédentes, que l'arrivée sur la scène de la relativité et de la conception probabiliste de la physique au début du XXe siècle a suscité bien des questions. Donc, Mandelbrot nous dit que ces choses tenues pour vraies, plusieurs faits qu'on croyait acquis au début de ce siècle, en 1900, sont maintenant considérés comme faux. Et il écrit bien « faux ». Hein, c'est tout à fait... ça mérite d'être souligné. Néanmoins, dans la plupart des questions, l'esprit moderne de la rigueur en mathématiques a été isolé et, pour ainsi dire, cristallisé vers 1860. Là, il pense à Cantor et à Lobachevsky à nouveau. Et on put craindre à ce moment un ralentissement rapide de la découverte. La peur peur constante de l'intuition, le désir de soumettre chaque chaînon de la démonstration à ce qu'on pourrait appeler l'épreuve de l'epsilon. Alors, celles et ceux d'entre nous qui ont une familiarité avec le travail mathématique savent que l'epsilon, c'est le petit truc qui nous embarrasse souvent et dont on n'a pas toujours, dont il convient de définir les propriétés. Alors, je vous donne l'exemple le plus emblématique. À la fin du XVIIIe siècle, au début du XIXe siècle, quand les géodésiens mesurent les trois angles entre trois clochers distants pour construire des cartes, alors ils mesurent les trois angles du triangle entre des points hauts et ils observent que le total de ces trois angles n'est pas égal à deux droits, comme on dit dans le corpus euclidien, à 180 degrés, pour parler de manière anachronique. C'est un peu embarrassant. C'est cet epsilon-là qui a focalisé l'attention des mathématiciens spécialisés pendant tout le début du 19e siècle et qui les a amenés à se dire... Le fond de l'affaire, c'est que l'axiome euclidien selon lequel par un point ne passe qu'une parallèle à une droite, cet axiome doit être révisé. Bon. En fait, ce qui se passait, c'est que les géodésiens étaient sur une surface sphérique, la Terre, et que la géométrie sur une surface sphérique n'a pas de raison d'être la même, d'obéir aux mêmes propriétés, apparentes, que la géométrie sur une surface plane. C'est justement Lobachevsky qui va comprendre que si on change cet axiome, si on envisage que deux parallèles peuvent avoir plusieurs points, deux points par exemple d'intersection. Alors, oubliez le terme parallèle en géographie sur le globe, mais songez au méridien. Ben, les deux pôles sont les deux points d'intersection de ces courbes qui sont l'homologue de parallèle dans la géométrie de la sphère. Comme ça. Alors, ce que Lobachevsky va comprendre, c'est que, pour employer un terme anachronique, structurellement, la géométrie qu'il élabore en renonçant à l'axiome de la parallèle et la géométrie euclidienne telle qu'elle était enseignée jusque-là, elles sont homologues. De là, le fait que, par exemple, dans l'environnement de l'école normale, les mathématiciens vont qualifier de non-euclidienne cette géométrie, qui va être portée aussi par Gauss, le mathématicien allemand. Donc, ce n'est pas une invention d'un seul, bien sûr. Alors, en 1946, il se trouve que plusieurs philosophes ont su dépasser le débat, kafkaïen, entre euclidien et non-euclidien. J'ai eu moi-même, dans les enseignants que j'ai suivis, au collège ou des choses comme ça, des professeurs qui nous expliquaient qu'il y avait là deux mondes irréconciliables. Alors, celui le plus connu peut-être aujourd'hui qui va dépasser cette opposition, c'est Gaston Bachelard, dans sa philosophie du nom, dont le sous-titre c'est « Introduction à un nouvel esprit scientifique ». La philosophie du nom, le nom, N-O-N, c'est le non-euclidien. C'est le fait de constater qu'effectivement nous disposons là de deux corpus pour lequel la qualification de géométrie est pertinente, et que pour le concevoir comme tel, il faut envisager ce que j'appellerais une super géométrie, que l'on décline dans le cas euclidien et dans le cas un temps appelé d'un euclidien. Donc vous voyez ce dépassement dont Bachelard assumait qu'il était nietzschéen. C'est une surgéométrie, pour parler aussi comme Bachelard. Et un autre philosophe, qui était moins important dans l'enseignement de l'épistémologie, qui est Roger Daval, faisait exactement la même interprétation. C'est-à-dire qu'il disait le propre du raisonnement mathématique au XXe siècle, c'est que l'on doit raisonner non pas au niveau de l'une ou l'autre de ces géométries, mais on doit raisonner au niveau de cette abstraction, vous voyez, de ce dépassement. Ce qui me permet de dire, de manière très ferme, que Shulem-Mandelbrot est à strictement parler bachelardien. D'autres mathématiciens exprimeront plus tard des conceptions voisines, comme Jean Dieudonné, Maurice Loy, voire André Lichnerowitz. J'ai eu l'occasion d'en parler avec lui. Il ne cachait pas son admiration et tout le miel qu'il avait tiré de la lecture de Bachelard. J'en reviens à mon propos. L'intrication entre cette conception, je dirais, Bachelard l'aurait appelé surrationaliste, de la géométrie et des mathématiques, et les mathématiques sont, et peut être constatée. Alors, et Mandelbrot écrit, heureusement, un nouvel état d'esprit s'est créé, une nouvelle pensée intuitive qui tient compte implicitement de ce raffinement de la rigueur. Le raffinement de la rigueur, c'est qu'au niveau de cette surgéométrie, on est tout aussi rigoureux, si ce n'est plus. Cette évolution n'a pas tari le génie créateur de notre science. Au contraire, en brisant des barrières artificielles, la recherche et la rigueur parfaite a fait faire à la découverte mathématique des progrès inattendus et fondamentaux. On reconnaît bien là l'un des fondateurs du groupe Bourbakis, si on le lit. Alors maintenant, passons à la leçon de mathématiques. Alors voici le conseil, enfin disons, voici la manière dont il décrit le travail du mathématicien. Et le conseil que tout professeur de haut niveau pourrait exprimer auprès d'étudiants, plus on généralise. En refusant d'utiliser les propriétés particulières présentes dans un problème, tant qu'elles ne sont pas indispensables à sa solution. C'est ça le truc. C'est-à-dire, si vous avez un epsilon casse-pied, vous le dépassez par la généralisation. Et quand vous avez construit votre affaire, vous le réintroduisez. Donc, plus on procède à cette généralisation, plus on a de chances d'opérer sur des êtres mathématiques entre lesquels les relations logiques soient simples, plus il est facile d'éviter l'intuition grossière et trompeuse des apparences sensibles. Il s'agit alors d'extraire les propriétés mathématiques des êtres mathématiques qui permettent par des enchaînements, ces propriétés qui permettent par des enchaînements de syllogismes, la découverte d'autres propriétés importantes. Bon. L'élaboration de la théorie des groupes suit exactement cette... après Cantor, suit exactement ce processus. L'étude de ces entités abstraites satisfera d'elle-même aux nouvelles exigences de la rigueur. La voici, la nouvelle rigueur que nous annonçait Mandelbrot. Mais il y a plus. On s'aperçoit bien vite que cet être abstrait, cet être purifié, trouve une interprétation, une image sensible dans de nombreuses branches de la physique théorique. L'analyse s'applique simultanément à des domaines qui, a priori, n'avaient entre eux rien de commun. Il faut entendre que les mathématiciens modernes n'ont pas à connaître d'objets particuliers, qu'ils n'ont pas à réaliser l'être général dont ces mathématiques veulent seulement s'occuper. Donc, vous voyez, ça vient après coup, ça. Ça faisait l'objet de grandes incompréhensions dans les années 70, quand les professeurs, disons, de en classe préparatoire ou dans des écoles, expliquer ça aux étudiants, et que les étudiants disaient non, je veux commencer à comprendre les choses concrètes. Et les profs disaient, mais tu n'y arriveras jamais. Donc, vous voyez, donc, c'est vraiment le savoir-faire mathématique du XXe siècle dont il s'agit là. Et je suppose du XXIe, et je suis moins engagé dans ces recherches aujourd'hui. Alors, il donne ensuite l'exemple de la formation de la théorie des groupes. Et il enchaîne en évoquant Henri Lebesgue, ce qui est très fin, puisque cette chaire, justement, dont il est, à l'égard de laquelle, enfin plus exactement, il propose la création de cette chaire, dans la suite d'une discussion qui s'est tenue en 1943, que vous évoquiez, Antoine. Donc il y a eu, en Assemblée des professeurs, une discussion sur l'usage des crédits de chaire de mathématiques après la mort de Lebesgue. Et c'est à cette occasion, disons qu'un accord ou un consensus a émergé sur l'idée qu'il faudrait réserver ces crédits à un mathématicien, un jeune mathématicien prisonnier. J'expliquerai la clôture et l'échec de Mandelbrot dans deux secondes, mais avant, je voudrais vous dire qu'il commet peut-être une erreur à l'égard des usages, c'est-à-dire qu'il va vanter les mérites de l'analyse générale. Et à cet égard, oui, vous avez le portrait. Excusez-moi, j'ai du mal à me retourner pour des raisons structurelles. Donc, il est certain que l'élève de Adamard et de Borel, à cette époque-là, le plus actif et le mieux en vue, était Maurice Fréchet. Maurice Fréchet, qui donc a publié dans les années 20 des ouvrages sur la formation de ces espaces abstraits, et qui ensuite va mettre en œuvre la même démarche dans le calcul des probabilités. Alors, application concrète, tous les objets susceptibles de calcul des probabilités deviennent des points, des vecteurs, enfin ce que vous voulez, dans des espaces abstraits. Et au lieu d'avoir l'œil rivé sur la probabilité de ces choses, on regarde les propriétés abstraites, ce qu'on appelle des espaces probabilisés, engagés dans la construction que je viens d'évoquer. Ce que je viens de dire peut paraître un peu abstrait, mais ça a des conséquences très concrètes. Alors l'une des conséquences concrètes, c'est ce qu'a trouvé Benoît Mandelbrot, en suivant des pistes qui provenaient aussi d'autres travaux mathématiques du début du XXe siècle, qui est que, ma foi, parmi les variables aléatoires, un truc qui prend une valeur, puis cette valeur, elle est aléatoire, toutes ces variables aléatoires n'ont pas les mêmes propriétés. Il y a des ensembles différents. Certaines peuvent être tenues pour sympathiques parce qu'on peut calculer facilement ce qu'on appelle communément une moyenne et une variance, ce qu'on appelle mathématiquement un moment d'ordre 1 et 2. Mais pour d'autres, on ne peut pas calculer la variance. Et bien ça vous fait, dans le monde financier, la volatilité imprévisible des cours de bourse. Donc vous voyez que ça a des conséquences très concrètes. Mais pour le penser abstraitement, il faut se mettre dans un raisonnement de type Fréchet. Hein ? Alors, voici que Mandelbrot cite Maurice Fréchet comme celui qui a appliqué l'analyse générale au calcul des probabilités. C'est de M. Fréchet dont viens de parler. La topologie générale et l'analyse générale doivent être comptées parmi les conceptions les plus importantes de notre époque, dit Mandelbrot, Et là, il cite, par allusion, le travail d'un grand nombre de mathématiciens américains, russes, polonais, suisses, hollandais, allemands, et de bien d'autres. Il a un certain culot, parce qu'il prétend, je veux dire Mandelbrot, parce qu'il prétend que Maurice Fréché est sans doute le mathématicien le plus cité en son temps. J'ai fait des vérifications à cet égard. Même mon collègue et ami Yves Gingras, qui détient les meilleurs instruments de calcul à l'Université de Montréal pour ce genre de choses, ne peut pas répondre à la question, disons, quel est le top 3 des mathématiciens en 1946. Donc, non seulement Chollet-Mandelbrot ose citer Fréché, ce qui, une fois de plus, si vous vous souvenez de ce que disait Antoine Compagnon, sans doute, n'est pas dans les usages, mais encore, il y va très fort. Parallèlement, un autre professeur qui, lui, s'occupe de géologie marine de la Méditerranée. Il s'agit de Paul Fallot. Je n'ai aucune idée de la familiarité de Paul Fallot avec les mathématiques évoquées par Mandelbrot. Et je ne dirai pas de vacherie que les scientifiques disent entre eux d'une discipline à l'autre, qui porterait à croire que Mandelbrot était peut-être mieux à même de trancher. Alors, Paul Fallot va revenir sur cet engagement pris en 1943 et appeler l'attention des autres professeurs du collège sur le cas de Jean Leray, un excellent mathématicien reconnu en son temps, y compris quand il était prisonnier, c'est-à-dire qu'il avait organisé des enseignements de mathématiques quand il était prisonnier. Tout au long de la carrière de Jean Leray, et après sa carrière, il est tenu pour un des très grands, si vous voulez, de l'après-guerre. Mais un point qu'il faut retenir, c'est sans doute que Jean Leray, en 1946, avait 40 ans. Alors que Fréché, j'ai un peu perdu mes feuilles, mais Fréché devait avoir 70 ans, quelque chose comme ça. Il était né en 78, si vous voulez. Oui, donc vous faites le calcul mental. Je n'ai jamais été très fort en calcul mental. Bon, bref. Or, à l'époque, les professeurs, enfin un professeur, s'il était élu, 69 ans, disons, administrativement, ça laissait devant lui quelques années d'enseignement. Ça ne dit rien d'un point de vue démographique. En général, enfin, je parle sous le contrôle d'Henri Léridon, mais aussi, ça ne dit rien sur les cas d'espèce. Parce que nos deux mathématiciens, comme beaucoup de mathématiciens d'ailleurs de cette génération-là, sont devenus nonagénaires. Hein. Bon, donc, mais là n'était pas le lieu du débat en assemblée. Alors, je suppose que l'engagement pris en 1943 à l'égard d'un prisonnier. Il n'avait pas été cité en 1943. Le contexte de la sortie de l'immédiate après-guerre et l'attention portée justement aux prisonniers de guerre à cette époque-là, et cette très grande différence d'âge, rien de tout cela n'a été favorable à notre ami Maurice Fréché. Si je dis notre ami, c'est parce que moi, sur le plan du calcul des probabilités, j'ai été formé par des. Enfin, je bénéficie d'un enseignement qui peut être appelé le petit-fils, si vous voulez, de cet enseignement-là. Alors, j'ose dire que c'est une tragédie pour le calcul des probabilités, dans sa conception la plus abstraite. Il y a eu des enseignements à l'Université de Paris dans le domaine, c'est vrai, mais un enseignement emblématique au collège aurait sans doute porté ce domaine plus haut. Et je constate, en persiflant, que le collège n'a pas respecté sa propre devise. Parce que voici, à moins que le calcul des probabilités ne soit pas dans tout ce que l'on peut enseigner. Donc, en résumé, on assiste de la part de Mandelbrot à une tentative très énergique, trop. J'ai fini, pratiquement. En général, une phrase qui commence par en résumé s'achève en moins de 2 heures chez moi. La tentative est énergique, sans doute maladroite. Et elle tombe au porte-à-faux. Et elle est hypothéquée, peut-être, par la diversité des âges des candidats possibles et par les engagements antérieurs. Donc, ce que je retiens de ce mémoire, enfin de cette proposition, c'est que les conditions très particulières, disons, de la procédure institutionnelle et l'exacerbation de ces conditions induites par la configuration de 1946, nous produit l'un des plus beaux et plus brefs exposés de méthodes mathématiques au milieu du XXe siècle. D'où l'intérêt d'étudier les rapports de présentation. Et là, j'ai véritablement fini. Merci de votre attention.
Merci. Bon, c'est évidemment un cas intéressant. Hein. Bon, ça fait partie de tous ces règlements qui ont eu lieu après la Libération.
Oui,
hein. Une élection qui a lieu, je recherchais dans mes notes, c'est le 26 novembre... 24 novembre 1946, hein, ça règle tout ce qui s'est passé pendant la guerre, pendant les années de guerre. Il faut ajouter que ce sont les crédits de chaire, je retrouve dans mes vieilles notes, que ce sont les crédits de chaire de Paul Langevin,
oui.
Pas moins. Donc c'est Paul Langevin qui lui-même a été écarté du collège pendant toute la guerre, hein, que les Allemands ont chassé du Collège de France, dont ils ont demandé de la révocation. À l'automne de 1940, tandis que Mandelbrot, lui, était révoqué par le statut des Juifs à l'automne de 1940. Donc, ils sont tous les deux revenus en 1944, hein, Langevin tout de suite, dès août 1944, et il avait déjà atteint 70 ans, mais on lui a donné l'équivalent des années qu'il avait perdues pendant l'occupation. Donc c'est pour ça qu'il a eu 2 ans de 1944 à 1946. Le retour de Mandelbrot, comme je le disais, était plus compliqué, puisque sa chaire budgétaire avait déjà été attribuée à quelqu'un d'autre pendant la guerre. La chaire des professeurs juifs révoqués avait été utilisée. Donc, lorsqu'il est revenu des États-Unis, on lui a donné précisément la chaire qui avait été réservée pour Leray. C'est celle-là qu'il a eue. On avait réservé une chaire pour un mathématicien prisonnier en 1943, qui était déjà Leray, dans l'esprit des collègues.
Oui,
dans l'esprit de certains collègues. Donc, c'est, vous voyez la complication des choses. Hein. Et donc, c'est. Et les résultats de. Oui, de Fréchet, comme vous disiez, il n'était pas jeune, hein, il avait 68 ans.
Oui, c'est ça.
Donc,
oui.
Et 68 ans à ce moment-là,
oui.
Et pas jeune. Et d'un autre côté, il y avait. Et les résultats de l'élection, c'est 26 pour Leray, 8 voix pour Fréchet. Donc c'est assez sans appel. Hein.
Ah oui, tout à fait.
C'est clair. Alors c'est vrai, ce sont des situations intéressantes puisque c'est donc lié à la guerre, hein, au fait, comme vous le rappeliez, qu'il n'y avait plus qu'un mathématicien au collège en raison de la mort de Lebesgue pendant la guerre. Oui. Puis Adamar avait été remplacé par Mandelbrot.
C'est ça, oui.
Ouais. Et Et alors, bon, évidemment, ça met... Bon, ça montre que ce qui est intéressant dans ces archives, c'est que, contrairement à, aux citations que vous faisiez du colloque, on y trouve les rapports des perdants.
Oui, c'est ça.
Hein,
oui.
C'est... Et moi, c'est ça qui m'a intéressé au départ, quand j'ai commencé cette recherche, c'est qu'on n'allait pas faire une histoire des vainqueurs.
J'ai fait cette citation pour marquer mon désaccord avec cette citation.
Heureusement,
pour dire que raison de plus.
Heureusement, voilà. Heureusement que ça ne se passe pas comme ça.
Si je peux me permettre d'ajouter un petit mot, c'est que la résolution, disons, de la tension entre les deux propositions, c'est faite par l'appel à un second rapport, appel à Mandelbrot, qui, à cette occasion, a fait entrer dans, si vous me permettez cette expression, la danse des candidatures possibles, puisque vous avez bien évoqué le fait qu'il y a des enchaînements en tenant compte des échecs et des succès, qui a fait entrer, excusez-moi, justement le prochain élu, c'est-à-dire... Excusez-moi, j'ai un petit problème de mémoire en général, mais je l'ai cité parmi les mathématiciens bachelardiens, Lichtenrovitz, voilà. Je vous prie de m'excuser quelquefois, j'ai du mal à faire revenir les choses. Donc, Lichtenrovitz, Mandelbrot a dû rapporter sur un ensemble de candidats, parmi lesquels apparaissait maintenant Lichtenrovitz. Ce qui fait qu'il s'est trouvé en seconde ligne après Le Ray. Et quelques années plus tard, la question d'une nouvelle chaire de mathématiques s'est posée.
Et c'est Lichtenrovitz.
Et Lichtenrovitz s'est passé.
Et ça montre comment cet usage des secondes lignes servait à introduire dans la discussion Je vais faire parler de quelqu'un pour plus tard. Seconde ligne que nous n'avons plus aujourd'hui. Mais ça servait tout de même à faire apparaître des noms, faire entendre des noms. Donc c'est une situation en effet très intéressante. Alors, est-ce qu'il y a le rapport de Fallot pour Le Ray?
Oui.
Il y est. Ah oui. Et alors, qu'est-ce qu'il raconte? Puisqu'il n'est pas mathématicien.
Bon, il raconte les choses un peu de l'extérieur. C'est-à-dire qu'il explique à quel point la théorie des, la chaire en question est sur la théorie des équations.
Oui.
Et donc, il vante les mérites de la théorie des équations.
Alors, Le Ray est un... Je vous signale que Le Ray est un très grand mathématicien.
Ah oui, absolument.
Très grand mathématicien. Et notre collègue actuel... Claire Voisin se réclame de Le Ray. Vous voyez que les mathématiques de Claire Voisin sont dans, après là aussi une assez longue lacune, dans cette lignée-là. Donc c'est pas... c'est une élection. On ne peut absolument pas dire que le choix qui était fait du gagnant était... moins prometteur d'avenir pour les mathématiques.
Ce
qui est intéressant, c'est de voir que dans un rapport de mathématiciens qui s'adresse à l'Assemblée des non-mathématiciens pour expliquer le
cela
cas.
Ça s'ajoute que Maurice Fréchet lui-même n'a jamais été très heureux au collège parce que Adama avait tenté en 1935... de promouvoir l'idée d'une chaire de critique de la statistique. Il s'agissait d'une conception à la fois kantienne et mathématique, du point de vue de cette conception très abstraite des mathématiques, du calcul des probabilités. Conception illustrée par le livre de Maurice Halvax et Maurice Fréchet, « Le calcul des probabilités à portée de tous ». Livre que nous allons faire paraître à la fin de l'année aux éditions de Strasbourg, de l'Université de Strasbourg, Laurent Mazliac et moi, et qui est un monument. Hein, un monument et ce livre primé à l'Académie des sciences. Quand est paru le calcul des probabilités à portée de tous. Adamar a voulu faire valoir, disons, la capacité de Fréchet de dialoguer avec les philosophes et à envisager, là aussi toujours du point de vue de cette abstraction que j'évoquais tout à l'heure, des domaines d'application extrêmement étendus. Alors là, le vote n'a pas été favorable au projet proposé par Adamar. Le nom de Fréchet ne figure pas dans les documents que j'ai lus.
Mais ça pourrait...
C'est par recoupement, compte tenu de documents qui existent, eux, à l'Académie des sciences...
Que vous pensez qu'il s'agit de Fréchet.
Voilà, c'est ça.
Mais vous voyez l'intérêt aussi de ces documents qui sont anonymes, mais dont il faut
recomposer... Oui, parce qu'on assiste à une sorte de course à l'échalote dans les archives de l'Académie des sciences autour de ce livre. C'est-à-dire qu'on comprend très bien que dans la démarche de promotion de Fréchet, ses mentors lui recommandaient de faire valoir le fait que le livre avait été lauréat de l'Académie des sciences. Donc,
dans cette élection, il y a aussi quelque chose qui a à voir avec probabilité contre équation différentielle.
Oui,
j'imagine.
D'un point de vue mathématique, c'est pas grave.
Ah, sauf qu'il y a toujours pas de chaire de probabilité au collège.
Alors ça, c'est autre chose. C'est-à-dire que les gens qui ont une formation probabiliste dont je fais partie, et qui sont issus de l'école de Paul Lévy, de Borel, Paul Lévy, Maurice Fréchet, portent un boulet, si j'ose dire. Oui. C'est-à-dire, vraiment, la discipline, enfin, ce domaine n'a jamais eu les honneurs d'un enseignement.
C'est ça. Et donc il y a ça, clairement.
Oui. Alors ça vient du fait qu'un certain nombre de professeurs au XIXe siècle, mathématiciens, disons, faisaient la confusion entre statistique et probabilité, et il y a eu des tas de polémiques là-dessus. Et justement, celui qui a coupé court à ces polémiques en adoptant une position très abstraite, ce fut Maurice Fréchet.
Oui, mais
dans
ça
n'a
pas suffi.
Mais ça n'a pas suffi.
C'est clairement, ça n'a pas suffi. C'est, oui. C'est côté mathématiques appliquées.
Oui, tout à fait.
Et c'est ça, on sent qu'il y a cette distinction qui joue là.
Oui. Alors, je n'ai pas vu de texte dans les archives du collège que j'ai pu lire autour de cette candidature de 46 ou celle de 35 qui aurait repoussé vers un domaine appelé mathématiques appliquées une tentative du genre de celle que l'on indique. C'est-à-dire que la conception probabiliste des probabilistes français, elle est vraiment très très abstraite.
Oui.
Moi-même, j'ai publié il y a 2 ans un article dans une revue où le référé était un physicien de formation mathématique venant des États-Unis. En répondant au référé, j'ai dû lui faire un cours de proba parce que il ne voyait pas du tout cette position abstraite qui provient de Borel, Fréchet, Paul Lévy et compagnie. C'est des choses, si vous alliez dans une université, il faut aller en Allemagne, en Russie ou en France ou en Italie pour avoir ce bagage-là. C'est pour quelqu'un qui veut faire une thèse. Dans le monde anglo-saxon, il y a une sorte de rabattement vers les statistiques.
Qui veut dire venir ?
Oui, excusez-moi de développer ce constat très triste, à mon sens.